La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, la vie en abondance, la vie qui déborde de vie, plus forte que la mort, le désespoir, la peur. Grâce sur grâce, sans condition de passé, de comportement, de foi, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, merci et bravo de vous être rendu disponible pour ce temps de culte, pour être là, ensemble, pour célébrer notre Dieu, faire monter vers lui nos louanges et nous ouvrir aux incroyables bienfaits qu'il désire nous apporter encore et encore. C'est vers lui que nous faisons monter nos louanges avec le premier chant qui est marqué sur vos feuillets, le psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Alors c'est page 154 du psautier, le psaume 138. De suivre du cœur cette prière d'Ambroise de Milan pour nous tourner vers Dieu en lui demandant son pardon et son aide. Viens Seigneur, viens chercher ton serviteur. Viens bon berger, cherche la brebis épuisée, égarée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même. Porte-moi, toi, qui es salutaire à ceux qui sont perdus, qui est le repos des fatigués, qui est vivifiant pour les mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre, la joie au ciel. Viens, bon berger. Et nous pouvons recevoir directement au fond de nous-mêmes l'assurance du pardon de Dieu et la grâce de pouvoir avancer d'un pas. C'est ce que je vous propose d'entendre, de méditer avec cet autre chrétien du IVe siècle qui dit à Dieu sa joie d'être porté. Père éternel, ayant pris ta brebis sur ton épaule, tu l'as ramenée vers les autres. Et j'ai reconnu alors le Fils de Dieu pour le bon berger, et j'ai retrouvé le pâturage paternel. Je marcherai à travers les puissances terribles sans souffrir d'elles aucun dommage. Ô Dieu, levant mes regards vers ton Christ, j'échappe au danger. Je ferai vibrer les harpes pour ta louange, et je me mêlerai au cœur des saints pour te célébrer. Ô Père mystérieux, à toi soit la gloire, la puissance pour l'éternité. Amen. Alors c'est un papyrus retrouvé dans les sables d'Égypte. C'est un papyrus qui date du IVe siècle. Alors je vous propose de prendre le cantique 41-26, page 596 de notre psautier. C'est le Te Deum, justement, le Te Deum de saint Ambroise, dont je vous ai lu la prière tout à l'heure. Grand Dieu, nous te bénissons. Les trois premières strophes. L'apôtre Paul nous propose de passer en mode guerrier. Alors évidemment, pas n'importe comment, ni contre n'importe quoi, ni contre n'importe qui. Alors pourquoi cette image violente ? Parce qu'il y a manifestement plus qu'une petite bricole à faire dans le monde. Ce serait plutôt un combat, afin que la volonté de Dieu, de notre Père céleste, soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel, nous dit Jésus dans sa prière. Alors cette prière, ce n'est pas une façon de nous défausser sur Dieu. Maintenant, tu es au courant de ce qui se passe sur terre, à toi de jouer. La prière, c'est un acte de responsabilité qui nous engage, nous. Il ne suffit pas de se plaindre de l'état des choses, il ne suffit pas d'avoir de belles intentions dans notre prière. C'est nous tous, autant qu'il y a de bonne volonté, que Jésus appelle dans l'Évangile à s'engager. Il nous dit, il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut rien faire. C'est pourquoi Paul nous invite à devenir en quelque sorte un chevalier dans le texte célèbre que je vais vous lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et c'est pour ça que j'ai mis sur le petit livret une image de François d'Assise, parce que lui-même était d'abord parti à la croisade avec une magnifique armure que lui avait offert son père très riche. Et puis en chemin, il a donné son armure à un pauvre bonhomme qui partait lui aussi aux croisades sans équipement. Et puis François d'Assise est parti sur un autre mode de combat bien intéressant. Alors je vous propose donc cette lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, de tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous dès maintenant à ta force, à ta bonté, à ton Esprit qui est source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien qu'on ait entendu les trompettes qui nous appellent au combat. Alors Paul nous interpelle donc, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Alors donc voilà des précisions sur l'adversaire que nous aurions à combattre, le diable. Seulement la traduction ne nous aide pas, ou plutôt l'absence de traduction. Car le mot « diable » en français est devenu le nom d'une sorte de dieu méchant ou de créature mystérieuse, invisible, malfaisante, dont certaines personnes en sont venues à croire à l'existence. Mais dans le grec du Nouveau Testament, le mot « diabolos », donc qui est juste décalqué en français, c'est le nom d'une fonction ce n'est pas le nom d'une créature. Cette fonction, c'est celle du démolisseur. Cela désigne toute personne, tout facteur qui brise, qui divise, qui fait exploser une construction ou un groupe pour en éparpiller les morceaux façon puzzle. Donc éparpiller les éléments, ça se dit diaballo en grec. Lutter contre le diabolique, c'est donc chercher à travailler au niveau de la source du mal, de la division, de la haine, de la violence, plutôt que de mettre seulement un pansement sur les symptômes. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Le chaos est le premier, est l'état premier de toute chose. Et tout est tiré de lui, évidemment, puisque c'est l'état premier de toute chose, et tout tend à revenir à cet état de chaos. C'est ce qu'on appelle en physique le principe d'entropie, ou le deuxième principe de la thermodynamique. Et par conséquent, face à ce chaos, que quoi que ce soit existe est déjà une merveille étonnante. Et qu'en plus il y existe des choses bonnes, et qu'en plus l'univers soit beau, c'est absolument miraculeux. Alors quand les Hébreux composent la première page de la Bible, celle qui ouvre la Genèse, ils reprennent en fait des récits de création qui datent depuis l'aube de l'Écriture, qui ont déjà plus de 2000 ans quand les Hébreux s'en emparent. Ces récits comportaient un Dieu bon et créateur face à un Dieu destructeur, méchant. Les Hébreux reprennent ce récit, mais ils gardent uniquement le Dieu créateur. Il ne combat plus contre un Dieu méchant, contre un diable, si on veut. Il combat, ou plutôt il travaille sur le chaos, afin d'en tirer quelque chose de bon. Et c'est la mission donc à laquelle nous sommes appelés par Jésus dans l'Évangile. Alors avant d'en être là, d'être capable de créer du bon, il nous faut d'abord être capable de résister, nous dit Paul, contre les méthodes du diable, les méthodes de tout ce qui, de tout facteur de chaos croissant dans l'univers, autour de nous, en nous. Et donc, pour être capable d'abord de tenir bon. Alors, la première source de chaos, c'est le chaos lui-même. Il tend à être contagieux, comme la peste bubonique à l'époque de François d'Assise. Et donc le chaos engendre du chaos, de la souffrance et de la mort. Nous devons donc effectivement, avant d'aller en contact avec le chaos, nous armer pour tenir bon face au chaos qui nous frappe. Alors il y a du chaos qui nous frappe, un chaos résiduel dans l'univers. Ce sont les catastrophes comme un tsunami, comme une maladie, comme un deuil, comme un loup qui décime un troupeau alors qu'il pourrait manger une seule petite brebis, il faut qu'il en tue 40, comme les hasards de la vie, heureux mais aussi malheureux, qui peuvent nous atteindre. Nous avons donc à tenir bon face à ce chaos, les hasards de la vie, et nous avons à tenir bon face à cette autre source de destruction et de méchanceté qu'est l'homme. Alors cela nous touche évidemment peut-être encore plus, et ça nous traverse tous plus ou moins évidemment. Le chaos, c'est l'arme de révolutionnaire. C'est aujourd'hui, mais ça ne date pas forcément d'hier, c'est aujourd'hui aussi l'arme de certains puissants que de faire voler en éclats l'état de droit, le respect, la société, la démocratie, la vie. Mais c'est aussi, bien sûr, un chaos qui est à l'œuvre dans les familles, dans les entreprises, entre voisins, en nous-mêmes aussi, dans le désespoir. Et donc il faut tenir bon, ne pas se laisser contaminer par cette source de chaos, mais même finalement, face à des personnes méchantes qui sont source de chaos, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre telle ou telle personne que nous avons à lutter, mais d'aller en amont de ça, d'aller lutter contre ce qui fait que cette personne peut parfois être source de chaos. Paul nous dit qu'il nous faut chercher donc en amont de ces symptômes les forces, les ressorts, les puissances, les principats qui sont dans le spirituel finalement, qui sont quelque part dans l'homme, dans la personne, et qui la conduit parfois à faire du mal, alors que ce serait tellement plus agréable et tellement plus beau, plus satisfaisant de faire le bien. C'est quand même étrange. Et donc, entre le diabolique dans l'homme et le chaos qui existe encore dans la nature, nous avons effectivement du travail de création à faire pour que la volonté de Dieu soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel. Mais pour cela, d'abord, il nous faut effectivement être capable de tenir bon sans être ni abattu ni contaminé par ce chaos. Et cela demande des forces. C'est le premier point essentiel de l'apôtre Paul. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Alors la traduction est imprécise, et on est là pour ça, pour essayer de voir plus en détail. En effet, nous avons en réalité un impératif passif. Soyez fortifiés. C'est une curieuse forme verbale, parce qu'un impératif nous invite à faire quelque chose, alors que le passif nous dit que c'est quelqu'un d'autre qui agit, donc Dieu, bien sûr, pour le passif dans la Bible. C'est donc un travail d'équipe. C'est Dieu qui nous donne une force souveraine, une force au-delà de nos forces, et c'est à nous de nous ouvrir à la puissance de Dieu, à sa puissance de création et de salut qui nous donnera la puissance nécessaire. Alors nous avons effectivement un travail en équipe pour que ça soit possible, un travail en équipe avec Dieu. Nous entrons dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Et donc nous avons effectivement des moyens, nous, que Dieu n'a pas, parce qu'il n'a pas de corps. Et donc pour aller mettre du pain sur la table d'un enfant qui meurt de faim, nous avons des mains, si vous voulez. Dieu, il va envoyer comment son pain sur la table de l'enfant qui meurt de faim? Donc nous avons des mains. Et Dieu a des moyens qui sont incommensurables, évidemment, mais qui sont autres. Donc c'est un travail d'équipe. Et dans cette équipe, nous nous retrouvons aussi avec des collègues en humanité avec qui nous pourrons travailler d'une belle façon. C'est le premier impératif, donc, un impératif au passif. Et puis maintenant, il y a un second impératif qui est de nous équiper. Revêtez toutes les armes de Dieu. Face aux méthodes diaboliques, sources de destruction, de division, ce sont les armes de Dieu lui-même que nous sommes appelés à prendre, à saisir, et puis à apprendre à utiliser. La tentation, effectivement, face au chaos, c'est de rendre le mal pour le mal, et donc d'utiliser les méthodes diaboliques pensant vaincre ainsi le mal. C'est être contaminé. Et effectivement, alors le mal a déjà remporté une victoire en nous incorporant dans le camp des faiseurs de chaos. Et c'est effectivement des choses qui peuvent être tentantes. La colère et la peur, l'injustice, la frustration, la désespérance peuvent nous abattre, peuvent nous faire baisser les bras, peuvent nous rendre méchants, en colère. Tenez bon, nous dit Paul, sachant qu'effectivement, ce n'est pas facile. Et pour cela, donc, de nous saisir de la panoplie. Panoplie, c'est le mot grec qui est utilisé ici, la panoplie de Dieu. Alors, ce ne sont pas des méthodes dont Paul nous propose de nous emparer, comme les méthodes diaboliques. Mais ce sont plutôt des qualités d'être, celles de l'être même de Dieu, en réalité. Avant même de combattre, il nous faut donc devenir un humain christique, ne serait-ce qu'un peu, c'est-à-dire avec ses qualités d'être du Christ. La sagesse populaire nous dit que charité bien ordonnée commence par elle-même. Effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux au sens qu'avant de faire quoi que ce soit dans ce monde, dans ce combat contre les sources du mal, nous devons d'abord penser à nous-mêmes pour nous développer avec l'aide de Dieu, afin de devenir suffisamment forts, suffisamment fiers pour tenir debout, résister au mal et puis avoir l'enthousiasme de partir au combat pour faire le bien. Alors cette panoplie, c'est pas une panoplie de Zorro, vous voyez, c'est une panoplie des armes de Dieu. Elle comporte quatre armes, nous dit l'apôtre Paul. La première, c'est la vérité. Alors dans la Bible, quand on dit vérité, c'est en fait une vérité de relation. Ce mot dans l'hébreu de la Bible, il est traduit parfois par fidélité ou par vérité. C'est donc d'être dans une belle disposition vis-à-vis des autres, une belle relation fidèle. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est la justice. Ce n'est pas la justice qui tranche, qui tue et qui élimine ou qui laisse tomber, c'est la justice de ce qui est juste, la conscience de ce qui est juste. Et ça nous protège effectivement de la contamination des méthodes diaboliques que nous serions tentés parfois d'utiliser. La bonne nouvelle de la paix. Alors, bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile. Évangile, il nous propose de le porter à nos pieds comme des sandales pour avancer sans avoir trop mal aux pieds sur les cailloux de la route. C'est-à-dire que cet évangile de la paix, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de cheminer d'une façon positive nous-mêmes, d'une façon constructive. Et puis finalement, il y a le bouclier de la foi en quatrième. La foi, c'est donc la confiance en Dieu, confiance dans la vie qu'il nous donne, et cela nous permet effectivement de résister au tourbillon de surprise du chaos. Ça nous donne un point fixe, sûr, solide. Alors avec ces quatre armes de Dieu, il y a en fait une théologie qui est exprimée par l'apôtre Paul. Dieu est comme cela pour nous, et ça aussi, ça nous donne donc une confiance par la foi. Dieu est fidèle, il est juste, il est source de paix et il est fiable. Il n'y a pas lieu donc de craindre que Dieu cesserait d'être ainsi. Il est et il restera en notre faveur. Alors il y a là aussi un programme, bien sûr, de développement pour notre personne, fort utile pour avancer dans la vie et faire du bien, tenir bon. Nous pouvons donc travailler ces quatre qualités d'être, nous dit l'apôtre Paul, les exercer comme on fait un exercice d'assouplissement et de musculation, parce que c'est bien notre être qu'il faut ainsi équiper dans son fonctionnement, ce n'est pas simplement des armes extérieures qu'il faudrait fourbir. Il n'y a pas d'autre moyen, effectivement, que de faire cela. C'est pour ça qu'il y a un impératif, parce que même Dieu, s'il nous aime infiniment, ne peut pas être fidèle à notre place, il ne peut pas aimer la justice à notre place, il ne peut pas nous forcer à évoluer si l'évangile de la paix ne nous dit pas grand-chose, ou il ne peut pas nous forcer à espérer en lui si nous ne pensons jamais à lui. Donc ces quatre dimensions, elles pourraient nous inspirer un programme de prière. Elle pourrait nous inspirer 4 jours de retraite dans un monastère, si on a goût à ça. Mais on peut aussi préférer une prière plus spontanée, comme on parle à un ami, sans entrer dans des programmes de prière. Mais puisque nous croisons ce texte de la Bible, nous pouvons nous demander où est-ce que nous en sommes, finalement, dans cet équipement de notre être, équipement si précieux pour tenir bon. Mais déjà y penser, déjà compter sur Dieu pour nous aider à nous renforcer dans ces domaines, c'est déjà s'équiper. Et puis dans la mesure où nous sommes un peu en forme dans ce domaine un peu en forme, c'est déjà immense, en vrai dire. Nous pouvons ne plus être seulement sur la défensive alors face au chaos, parce que nous tiendrons bon. nous pouvons devenir actifs et augmenter le bien dans le monde, modestement certes, mais résolument. Et pour cela, il y a encore deux pièces d'équipement qui nous sont offertes. Recevez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. Donc le casque du salut, c'est savoir qu'envers et contre tout, nous sommes gardés. Et nous serons gardés quoi qu'il arrive, et ça, ça inspire de l'audace. Nous sommes déjà sauvés. Et puis à l'épée de l'esprit, c'est ce qui permet de trancher, de discerner entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Or, en ce monde, tout est tellement mêlé qu'il y faut bien de l'esprit pour arriver à discerner, à faire la part des choses. Alors l'esprit ou la parole, c'est dans la Bible. Cette façon que Dieu a de créer, en ajoutant du sens, donc, par la parole, en appelant à se poser des questions, comme souvent Jésus, en annonçant à chacun, donc, cette bonne nouvelle, qu'il n'y a pas besoin d'être méchant pour être grand, et encore moins pour être heureux. Le monde ne pourra être sauvé que par cette arme positive de l'esprit, de la parole de Dieu, qui fait vivre. C'est pourquoi le Christ est une incarnation de cette parole, parole que Dieu nous donne aussi, pour que nous soyons son frère ou sa sœur. Et maintenant donc, à nous de jouer vaillants héros, comme Dieu le dit à Gédéon. Amen. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te bénir, Père éternel. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu crées le monde, tu nous appelles à la vie. Alors béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle partout et en nous. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il accomplit pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps, et que tu nous y aies préparé une place spéciale pour nous. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Matthieu, dans son évangile, raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Matthieu y était. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, Après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. »
Seigneur notre Dieu, tu es notre force et notre salut, notre rocher et notre espérance. Seigneur, que ta vérité nous affermisse. Dans un monde de confusion et de mensonges, rends-nous courageux pour proclamer avec amour et clarté la vérité de l'Évangile. Soutiens les pasteurs, les enseignants et les témoins de ta parole. Viens, Seigneur, juger avec droiture et défendre les faibles. Nous prions pour tous ceux qui osent parler de toi. Fais de nous, chacun, des artisans de paix dans nos familles, nos quartiers, notre société. Seigneur, nous prions pour ceux dont la foi chancelle, pour ceux qui traversent l'épreuve, la maladie, le deuil, la solitude. Nous te remettons ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui cherchent un sens à leur vie. Révèle-leur ton salut, Seigneur. Fais de ta parole une arme vivante dans nos vies, qu'elle éclaire notre chemin. Nous prions pour ton Église, Seigneur. Rends-nous vigilants, persévérants dans la prière, attentifs les uns aux autres, remplis de compassion et de foi. Seigneur, entends nos intercessions par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et ensemble, nous disons de notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de prendre le cantique 3501, page 474, le Veni Creator, en français dans le texte. Viens, Saint-Esprit, Dieu Créateur, mettre en nous, mettre en tout homme un nouveau cœur. Les quatre strophes.
Thank you. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut participer à ce repas, prendre le pain et ou boire une coupe, en signe de son désir de prendre, d'assimiler tout ce que Dieu nous donne en Christ pour avoir la vie. En même temps, bien sûr, ce geste n'est pas obligatoire, il y a de multiples façons de répondre oui dans son cœur à l'appel de Dieu. Je vous propose de vous mettre en cercle autour de cette table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacune et pour chacun de nous. distance à moi. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Alors oui, nous bénirons l'Éternel. Amen. Vous pouvez retourner à vos places quelques instants avec cette force que nous donne la joie, l'Esprit de l'Éternel.
Un grand merci à Sabine pour sa prière, vraiment inspirée, merci beaucoup. Merci à Jean-François pour le service, l'accueil, la scène aussi. Merci à Clément Monet qui est à l'orgue, remplaçant Norberto qui est parti en vacances donc dans son pays d'origine en Argentine. Merci Clément en particulier pour la belle sonate en trio qui ouvre, c'est un morceau qui semble tout simple, ces sonates en trio de Bach, mais ils sont complètement injouables en fait, ils sont très très difficiles. C'est ça le miracle de Bach. Grand merci à vous d'avoir constitué cette assemblée. Effectivement, c'est tout à fait porteur de pouvoir ainsi être les uns avec les autres, comme un échantillon d'humanité pour que nous puissions faire corps. Maintenant, c'est le moment de l'offrande et puis de chanter aussi le dernier chant, 3608 de notre recueil, page 505. « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. » 505, les trois strophes, page 505. « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. »
Thank you.
Alors la bénédiction, c'est un envoi en mission dans le monde pour être donc une bénédiction pour d'autres et pour ce monde. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui nous rassemble en un corps sont avec chacune et chacun de vous, sont sur les personnes à qui vous pensez, ici et au-delà, dès maintenant et pour toujours. Oui, tu sauves, ô Éternel, l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu mon Dieu. Amen.